D'ailleurs, la tribu de Benjamin reprend tellement bien que le premier roi, vous allez voir comment Samuel lutte tant qu'il peut pour que les Israélites abandonnent l'idée d'avoir un roi. Ben, il leur dit, vous allez voir, ça va aller très mal, ils vont prendre vos filles pour en faire des parfumeuses, des boulangères, des couturières, les hommes, ils vont les mettre au service, ils vont les mobiliser dans leur armée. Enfin, ils veulent. Alors, Samuel leur donne un roi, et je passe ici, alors, c'est tout à fait dans la ligne de notre recherche du culte en esprit et en vérité. Ce paysage est habité par ce qu'on appellerait aujourd'hui le charismatisme. Entre Rama, entre Gibea et Rama, c'est une atmosphère de charismatisme. Et alors justement, quand on lit l'élection, quand on lit l'onction du premier roi, Saül, qui a sa capitale ici, c'est le fils d'un bonhomme là, qui a l'air assez fortuné, et qui habite ici, il s'appelle Kish, il a des troupeaux, et il y a des ânesses. Les ânesses choisissent de la liberté, un beau jour. Et le fils Saül, on le décrit ici, il était dans la fleur de l'âge et beau. Nul parmi les Israélites était plus beau que lui, de l'épaule et au-dessus, il dépassait tout le monde. Alors le papa envoie son garçon avec un camarade pour chercher les ânesses. Et ils font tout un itinéraire qu'on n'a jamais réussi à reconstituer, mais vous n'avez qu'à faire le tour d'horizon, vous voyez tous les endroits par où ils sont passés. Et au bout d'un certain temps, ils ne trouvent toujours pas les ânesses, et le camarade dit à Saül, il y a un homme de Dieu qui habite par ici. C'est un homme réputé. Tout ce qu'il dit arrive sûrement. On va y aller, peut-être qu'il va nous éclairer sur le voyage que nous avons entrepris. Alors Saül et son serviteur, oui, on peut y aller, mais qu'est-ce qu'on va lui apporter ? On ne va pas voir comme ça, pas un homme de Dieu sans un petit salaire, un bakchich, un honoraire, comme on dit, à l'appui. Alors c'est amusant ici, parce qu'en hébreu, comment est-ce qu'on dit prophète ? Navi. Navi. Alors, qu'est-ce qu'on va lui apporter ? Ma navi. Le verbe beau alifil pour ceux qui ont fait de l'hébreu. Ma navi, vous voyez, c'est vraiment un pavé dans la mare des prophètes de l'époque qui sont plus ou moins déjà soumis à une sorte de vénalité. Alors ils y vont, ils trouvent l'homme de Dieu. Alors ils arrivent à Rama. Et puis, alors il demande aux filles qui puissent de l'eau, à l'entrée de la ville, où est-ce qu'il habite, etc. Alors, ils répondent par un discours assez incohérent, qui donne beaucoup de mal aux exégètes. Mais j'ai entendu des professeurs dire, c'est parce que des rabbins disent, c'est simplement parce que Saül était tellement beau que les filles se sont mises à bafouiller. Alors, ne fais pas sur le discours. Voilà que Samuel, au lieu de donner des tuyaux sur les ânesses, il prend sa corne d'huile et puis il oint Saül roi. Alors il proteste, il dit, ne suis-je pas un benjaminite de la plus petite des tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes celles de la tribu de Benjamin, pourquoi me dire de telles paroles? Alors quand même, il est là. Alors vous allez voir, on est en plein charismatisme ici. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Quand tu m'auras quitté, dit Samuel au chapitre 10 à Saül, tu rencontreras, tu tomberas dessus comme par hasard. Il n'y a pas de hasard. Deux hommes près du tombeau de Rachel. Vous rappelez le tombeau de Rachel? Eh bien justement, on est ici à la frontière de Benjamin et de Ephraïm, et c'est beaucoup plus plutôt par ici qu'il faut le chercher. Sur la frontière de Benjamin. Alors, passant où, tu arriveras au chêne du Tabor. C'est une espèce de chêne, c'est pas le Tabor, hein, c'est une espèce de chêne qui s'appelle comme ça. Et là, tu tomberas, comme par hasard, sur trois hommes montant vers Dieu à Bethel. L'un portant trois chevreaux, l'autre portant trois miches de pain, le dernier portant une outre de vin. Ils te salueront, te donneront deux pains que tu accepteras de leurs mains. Ensuite, tu arriveras à Gibea de Dieu. Oui, Gav, il y a toutes les collines, Gabaon, Gibea, Geba, vous voyez, c'est toujours les épaulements de Benjamin. Tu tomberas sur une troupe de prophètes. De prophètes descendant du haut lieu, précédés de la harpe, du tambourin, de la flûte et de la cithare. Enfin, la guitare n'existait pas encore à ce moment-là. Et ils seront en délire, ça c'est un peu méchant. Moi, je dirais plutôt en effervescence. Et chaque fois qu'il y a délire dans la Bible de Jérusalem, je dis en effervescence charismatique. D'abord, c'est très contagieux, très curieux, une effervescence contagieuse. Alors, l'Esprit de Dieu fondra sur toi, tu entreras en délire, en effervescence, pardon, et tu seras changé en un autre homme. Il y en a qui font, et loin de moi d'en dire du mal, hein. Beaucoup prennent leur point de départ dans l'espérance charismatique, et c'est bien. Ça peut les mener, si la foi purifie leur expérience, au culte en esprit en vérité. Et je crois que l'Esprit de Dieu là agit. Non, ça peut être très mélangé. Alors il faut se mettre à l'école de la Bible pour faire des discernements. Et vous savez, toute l'histoire de l'Église, et puis l'Épître aux Corinthiens déjà, nous invite à faire le discernement des esprits. C'est pas si simple. Vous savez, le meilleur et le pire sont souvent mélangés. Et l'ivraie et le bon grain poussent en même temps. Et alors, seule la culture biblique et historique peut nous amener à faire des discernements. tu viendras un autre homme. Et alors, dès qu'il eut tourné le dos, Dieu lui changea le cœur et tous ses signes s'accomplirent le jour même. Ils arrivèrent à Giba et voici qu'une troupe de prophètes, de charismatiques, venait à sa rencontre. L'Esprit de Dieu fondit sur lui et il entra en effervescence au milieu d'eux. Alors, lorsque ceux qu'il connaissait de longue date virent qu'il prophétisait avec les prophètes, les gens se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce qui est arrivé au fils de Kish ? Saül est-il aussi parmi les charismatiques ? Et un homme du groupe reprit, et quand on pense qui est leur père ? C'est pour ça, c'est pourquoi il est passé en preuve de dire Saül est-il aussi parmi les prophètes. Il y en a comme ça qui, tout d'un coup, leur hiérarchie des valeurs est changée, ils adoptent des comportements bizarres, leur famille est une famille traditionnelle, très honorable, les gens s'étonnent. Vous voyez, c'est... Bon, alors Saül est proclamé roi, et puis ensuite, alors je vous lirai tout ça, moi je vous fais soupçonner que c'est intéressant, et qu'il y a encore des enseignements très actuels ici. Alors on a déjà raconté l'histoire de David, vous la reconstituerez à partir des blocs que vous connaissez déjà. Et puis après l'histoire de Goliath, là, Saül devient jaloux. David a beau jouer de la musique, là, il a failli se faire assassiner deux fois, alors il prend la fuite. Il est sauvé par sa femme Michal, alors que la police de Saül entoure sa maison. Elle le fait partir par la fenêtre. Vous lirez toute l'histoire, c'est passionnant. Alors David, ayant donc pris la fuite, s'était échappé. Il se rendit chez Samuel à Rama. Vous voyez, c'est par là. Samuel habitait à Rama. On est ici, Gibea, vous voyez, Rama, c'est la petite colline là-bas avec un minaret, juste un petit peu plus loin vers le nord. Et il se rendit chez Samuel à Rama, il raconte tout ce que Saül lui a fait. Alors lui et Samuel allèrent habiter ici, Nayoth, on ne sait pas comment traduire. Hein. Ils ont mis cellules ici, des bicoques. Moi je crois que tout à l'heure, au bord du Jourdain, on aura l'occasion de parler de la rencontre, la première rencontre avec Jésus, Jean-Baptiste, pas plutôt Élisée. Élisée au bord du Jourdain, vit entouré par une troupe de disciples. Et vous rappelez l'histoire de la hache, là, on va faire une demeure, vous voyez. Ils faisaient des bicoques, ils habitaient dans le précaire, comme ça, ils avaient été au bicoque. Je suis traduit par bicoque. Rama. Alors Saül envoya des messagers pour se saisir de David, et ceux-ci virent la communauté des prophètes en train de prophétiser, Samuel se tenant à leur tête. Alors, l'Esprit de Dieu s'empara des messagers de Saül, et ils furent pris d'effervescence charismatique eux aussi. On avertit Saül qui envoya d'autres messagers, ils furent pris d'effervescence charismatique eux aussi. Saül envoya un troisième groupe de messagers, ils furent pris d'effervescence charismatique eux aussi. Alors il partit lui-même pour Rama et arriva à la grande citerne qui est à Sekou. Il demanda où étaient Samuel et David, on répondit, ils sont au bicoque à Rama. Il se rendit donc au bicoque de Rama, mais l'Esprit de Dieu s'empara aussi de lui. Et il marcha en effervescence jusqu'à son arrivée aux cellules à Rama. Lui aussi, il se dépouilla de ses vêtements. Il fait des comportements bizarres. Je ne sais pas ce que ça en est en France, mais ici, on en voit arriver de tous les coins du monde. Quelquefois, ils ont des comportements vraiment tout à fait excentriques, enfin, à la limite de la convenance. Lui aussi fut pris d'effervescence devant Saül, puis il s'écroula, nu, et resta ainsi tout ce jour et toute la nuit. D'où le dicton, Saül est-il aussi parmi les prophètes. À mon avis, il serait peut-être temps de partir, parce que si c'est tellement contagieux, on risque de... Et puis on s'enrhumerait, il ne fait pas encore très chaud. Et puis la police, enfin bref. Mais bon, ça traite de plaisanterie. Non, vous voyez, encore une fois, on est à la recherche du culte en esprit, en vérité. Le prophétisme a sa naissance. D'abord, il existe aussi chez les Cananéens, d'une façon très ambiguë. Et regardez là-bas, vous apercevez le village de Anatot. Qu'est-ce que c'est que Anatot ?
De Jérémie.
De Jérémie. Et Jérémie est un sommet du prophétisme. On a déjà eu l'occasion de le rencontrer, on l'aura encore. Et vous voyez, c'est à partir des choses ambiguës, pas que la foi purifiant la religion. La religion, ça peut être très équivoque, l'idolâtrie, c'est de la religion. La foi purifiant la religion amène au culte en esprit, en vérité. Et alors ici, nous avons, dans l'ambigu, mais nous avons là-bas le type du prophète le plus authentique des grands prophètes de l'Ancien Testament. Et Jérémie, on a déjà eu l'occasion d'en parler, on l'aura, est une figure extraordinaire de Jésus-Christ dans cette discussion dans le temple, dans sa mise en question du culte. Lorsqu'il sert de paravent à la justice, on aura l'occasion de reparler de tout ça. Bon, alors on va continuer cette recherche du culte en esprit, en vérité. On va passer à l'itinéraire que je faisais dans la brochure, c'est plus possible maintenant. Mais alors on va servir de chemin, on peut encore méditer tranquillement. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller rejoindre Jérémie maintenant. Hein, de Anatot, il y a un ouadi là qui descend. Oui, tout à l'heure, il y en a qui m'ont dit que les filles de silo, c'était pas très édifiant vraiment pour une retraite, là, pour qu'est-ce que j'encombrais la méditation d'histoires comme ça. Alors ça m'a travaillé un peu, et puis j'ai trouvé la réponse. Au fond, s'il n'y avait pas eu cette histoire des filles de silo, on ne serait pas chrétien. Hein, puisque l'apôtre des nations, on en a parlé là, l'apôtre des nations, saint Paul, qui répond à l'attente des îles lointaines, et en écho à la prédication de qui nous venons ici dans cette terre sainte, eh bien il était benjaminite, et donc il ne serait pas né s'il n'y avait pas eu cette histoire de silo. Il se vante, bah, il dit hébreu, fils d'hébreu, de la tribu de Benjamin, circoncis du huitième jour. Bon, eh bien c'est grâce à saint Paul, l'apôtre des nations, que nous sommes chrétiens. Tout simplement, il faut savoir que Dieu, comme dit Claudel, a écrit droit avec des lignes courbes, et justement, c'est une bonne occasion pour moi de faire des mises au point sur la culture biblique. La Bible n'est pas un livre édifiant au sens où on l'entend habituellement. Ben, encore une fois, ça ramasse la condition humaine telle qu'elle est, là où elle en est, puis pour la faire progresser. Bon, je crois que c'était bon de faire une petite mise au point là sur cette histoire. Contemplons un des paysages les plus impressionnants là, du désert de Juda, à l'est de Jérusalem. On voit Jérusalem là-bas dans le fond, avec les trois clochers. Là, on voit très bien, il y a le clocher du Mont des Oliviers, il y a le Augusta Victoria, et puis bon, on voit aussi là-bas dans le paysage la petite colline où était le palais du roi Hussein. On a commencé là, entre Giba et Rama par là, oui c'est ça. Et alors ici, tout en faisant un petit peu de géologie, là, au fur et à mesure répéter ce que j'ai appris dans les cours à l'école des guides, là, il y a Jérusalem dans une sorte de creux, entre la montagne d'Hébron, là-bas au sud, qui est plus haute, qui atteint presque 1000 mètres, et puis la montagne de Samarie, qui atteint aussi environ 1000 mètres plus loin, là-bas, le Baal Hatzor. Et alors, dans ce creux, la mer, à l'époque sélonienne, on m'en demandait pas plus, tout ça c'est du calcaire blanc d'époque sélonienne, a fait un golfe. Et alors ensuite l'érosion va creuser là, et puis ce que vous contemplez, c'est dans les calcaires de l'époque sélonienne, ce qu'on appelle Wadi Kelt, ou bien peut-être Nahal Perat, dont on parle dans l'histoire de Jérémie. Alors le Wadi Kelt est très riche de signification pour nous. Quand Jéricho est par là, Jérusalem est là, et on contemple toute la route de Jérusalem à Jéricho. Et il est fort probable que ce Wadi Kelt là, alors vous voyez, on peut peut-être encore ajouter au point de vue géologique, plus on enfonce, pas plus on atteint des calcaires beaucoup plus anciens, beaucoup plus durs, turoniens, sédomaniens. Et alors plus c'est dur, bah, plus l'érosion se fait en forme de canyon. Et alors au fond de ce canyon là, vous avez des grottes, et à l'époque byzantine, c'était truffé de monastères. Bon, on les comptait par dizaines. Et on aura l'occasion d'ailleurs. Moi, je termine toujours cette journée par une marche. On remonte un petit peu le Wadi Kelt entre Jéricho et Jérusalem, parce que là on met ses pieds dans les pas de Jésus. Enfin, la montée à Jérusalem, au fur et à mesure que l'expérience s'est déroulée, a pris une signification théologique. Mais ça reste enraciné dans la géographie. Alors mettre ses pieds dans les pas de Jésus dans cette Wadi Kelt entre Jéricho et Jérusalem, bah, c'est monter avec lui à Jérusalem avant cette Pâque, cette passion et cette résurrection. C'est par là qu'il est monté une dernière fois à Jérusalem. Il est repassé par Jéricho comme s'il avait voulu retrouver ses grandes options messianiques qui le conduisaient par la voie étroite, pas à la mort et la résurrection. Vous sentez comme tout ce nous. Moïse meurt sur le mont Nebo, qu'on distingue là-bas dans les montagnes de Moab. Et puis Jésus nous énonce ses options messianiques, il nous les fait comprendre petit à petit, les emmène sur les habités nord du pays. Et puis ensuite, tout s'inscrit dans le cadre d'une montée à Jérusalem, on repasse à Jéricho, et puis on monte à Jérusalem où s'accomplissent les Écritures. Et rétrospectivement, la route d'Emmaüs, ne fallait-il pas que le Fils de l'homme souffrir avant d'entrer dans sa croix? Vous sentez comme tout ce nous étrangement dans la géographie de ce pays.